Troisième chapitre. Les contes Salomon, Gradelon, Audrin. Invasion des Alains. Invasion des Huns. Les contes Riotim et Bulic. Clovis. Alliance des Francs et des Bretons. Le premier roi que les chroniqueurs placent après Conan est Salomon, dont ils font son petit-fils en 421. Suivant eux, il renouvela le traité d'alliance avec les Romains et s'unit à la fille d'un patrice nommé Flavius. Sous son règne fut abolie la vente à l'encan, au profit du trésor, des enfants de ceux qui ne pouvaient payer l'impôt. Cette coutume était, sans doute, un reste de l'administration romaine dans quelques villes de la Bretagne. Salomon n'eut pas le même succès dans toutes ses réformes. Il périt assassiné au milieu d'une révolte en 433. Les Armoricains reconnurent alors pour roi Gradelon Mûr ou Mort, Gradelon le Grand, comte de Cornouailles, beau-père de Conan Meriadec, avec lequel il était venu de l'île de Bretagne. Ce prince défendit la Bretagne contre une nouvelle attaque des Romains et s'associa aux Bagaudes ainsi qu'à des colonies franques établies dans quelques villes bretonnes. Ces terribles confédérés s'avancèrent jusqu'à Tours, d'où les forces de Majorien ne les repoussèrent que difficilement. Gradelon mourut vers 444 et fut inhumé dans le monastère de Landévennec, fondé par lui, avec celui de Saint-Jagut. De tous les rois bretons, il n'en est aucun qui ait autant occupé les légendaires, et l'on ferait des volumes avec les récits merveilleux dont il a été l'objet. Audrin succéda à Gradelon. C'est lui qui était à la tête des Bretons de l'Armorique au moment de l'invasion des Alains et de celle des Huns. Les Alains, précipités contre la péninsule par le patrice Aécius, en auraient exterminé les populations sans l'intervention de Germain d'Auxerre. Le pieux prélat revenait de combattre l'hérésie pélagienne dans la Grande-Bretagne et il y avait aussi remporté sur les barbares la victoire de l'Alléluia. Bien qu'épuisé de fatigue, il marcha contre Éocaric, le chef des Alains, et le contraignit à accepter provisoirement un traité qui suspendit la vengeance romaine. Les Armoricains ne tardèrent pas à braver de nouveau leurs anciens dominateurs, mais un péril immense vint les rapprocher d'Aécius. Attila, le roi des Huns, semblerait moins un personnage historique qu'un symbole de destruction si tous les historiens ne s'accordaient sur son existence. Laid comme le péché et né pour l'effroi de la terre, il fut justement surnommé le fléau de Dieu. Les intrigues du vandale Genséric le poussèrent sur la Gaule et ce fut à peine si, sur son passage, il épargna quelques villes. À Paris, tout le monde voulait s'enfuir, quand Geneviève, la sainte recluse, sortant de sa cellule, annonça au nom du ciel que les Huns se détourneraient des murs. Ils passèrent outre, en effet, et se dirigèrent vers Orléans. Ils y entraient déjà lorsque l'évêque Annianus vit comme un nuage s'élever de terre. « Voici le secours du Seigneur » s'écria-t-il. C'était Aécius avec ses Romains, ses Germains et ses Bretons. Après un combat sanglant, la cavalerie d'Attila se replia vers la Seine et la Marne. Les confédérés la poursuivirent, et le sort du monde se décida dans les champs cataloniques. La lutte fut terrible. Ce fut comme deux océans d'hommes qui heurtèrent leurs flots pendant un jour et une nuit. Enfin, les Huns battirent en retraite, et personne n'ignore comment leur chef se vengea de la Gaule sur l'Italie. Il était écrit cependant qu'il n'entrerait pas à Rome. Saint Léon l'arrêta en lui opposant le signe sacré de notre rédemption. Il mourut l'année suivante dans une vallée du Danube où les siens l'enterrèrent secrètement avec des drapeaux ennemis et des armes magnifiques. Il ne resta de cette irruption de barbares dans les Gaules qu'un sol bouleversé comme par la charrue et disputé par les dernières tribus germaines. Bientôt le mérovingien Clovis, porté sur le bouclier de ses soldats, fonda le royaume de France. Le premier usage que les Bretons firent de leur victoire fut de se venger des Alains, leurs alliés du jour, mais leurs ennemis de la veille, et ils les chassèrent de leurs établissements de la Loire. Ils étaient toujours gouvernés par le roi Audrin, qui venait de refuser la couronne de la Grande-Bretagne. On cite après lui un chef du nom de Riotim, qui n'est autre sans doute que l'érec des chroniqueurs. À sa mort, en 490, Budic, comte de Cornouailles et fils d'Audrin, revint de l'île de Bretagne, où il avait suivi son oncle, et entreprit vaillamment de défendre l'Armorique contre les Francs et les Normands. Il reprit le territoire que son père avait enlevé aux Alains, du côté de la Mayenne, et rentra en possession du comté paternel. Il devint alors roi suprême de la péninsule. C'était le moment où allaient commencer, entre les Francs et les Bretons, ces longs et terribles combats qui devaient arroser de sang l'un et l'autre pays pendant plus de 10 siècles. Il serait superflu de rappeler ici les victoires remportées successivement par Clovis sur les Romains, les Allemands, les Bourguignons et les Visigoths, et à la suite desquels il se trouva maître de la plus grande partie du territoire gaulois. Ce qu'il importe de dire, c'est que tous les triomphes seraient demeurés inutiles sans Clotilde et les Armoricains. La main de cette reine catholique et l'alliance d'un peuple indomptable assurèrent seuls au fils de Childéric la domination de la Gaule. La mère des rois Burgondes, Clotilde, vivait ignorée auprès de Gondebald lorsqu'un pèlerin mendiant, raconte Frédéguer, lui apporta la demande et l'anneau de Clovis. Il la trouva hospitalière aux voyageurs. Elle lava les pieds du pèlerin, reçut en secret son message et en fut si joyeuse qu'elle lui donna 100 sous d'or. Or, ce mendiant était Aurélien, conseiller de Clovis, dont les ambassadeurs ne se firent pas attendre. Ils remirent à Gondebald 1 sou et 1 denier, suivant l'usage. Clotilde partit avec eux, s'élança sur un cheval pour arriver plus vite et devint la femme du roi païen en 493. 4 ans après, le roi païen, disposé par Clotilde, invoquait Jésus-Christ dans les plaines de Tolbiac et triomphait au nom du vrai Dieu de tous les Germains coalisés. Le jour de Noël suivant, le fier Sicambre se courba sous le doigt de l'évêque de Reims et fit baptiser après lui sa famille et son peuple. L'Église le déclara aussitôt son fils unique entre tous les rois d'Occident et la Gaule repoussa les barbares infectés par le paganisme et l'arianisme. Il ne manqua plus à Clovis que la soumission ou l'alliance des Armoricains. En 497, les Francs allèrent piller le territoire des Bretons et leur roi lança enfin contre eux toutes ses forces. Cette attaque fut si vigoureusement repoussée que Clovis, renonçant à vaincre une nation indomptable, prit le sage parti de traiter avec elle. Alors vraisemblablement furent reposées les limites qui devinrent la cause ou le prétexte de tant de guerres entre les deux pays.